Sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Mon invité aujourd'hui en studio, c'est Boubacar Sangaré. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Boubacar Sangaré, vous êtes documentariste, vous êtes juriste et vous êtes même doctorant. Alors, peut-être que vous voulez déjà nous rappeler votre parcours d'étudiant. Comment vous êtes venu aujourd'hui doctorant en France et documentariste?
Ben, merci de me recevoir. Pour parler de mon parcours, je dirais que je suis d'origine du Burkinabé et j'ai fait mes études au Burkina. Au départ, quand je finissais le lycée, je voulais par exemple faire des études de cinéma. C'était ma passion et c'est tout ce que je voulais faire. Et il s'est trouvé qu'il y avait une seule école au Burkina et l'école recrutait chaque 2 ans et c'était assez cher. Donc, quand j'ai fait mon bac, mes parents, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer l'école de cinéma et que je pouvais essayer de faire autre chose en attendant. Donc, j'ai été faire 2 années de droit. Et au bout de la 2e année, ils m'ont dit, bon, cette année, si tu veux, tu peux faire le test pour le cinéma et on verra. Quand j'ai fait le test, j'étais admis. Et là, ils me disent, bon, écoute, ouais, tu veux faire du cinéma, tu as commencé du droit. Il y a une dernière condition. Si tu veux qu'on paie pour le cinéma, il faudra continuer pour le droit. Du coup, j'ai dû faire un parcours parallèle entre cinéma et droit. Et donc, j'ai fini le droit. 1 année après, j'ai fini le cinéma. J'ai un peu travaillé au Burkina dans le domaine du cinéma. Et là, je me suis dit, il y a peut-être une possibilité de trouver un lien entre mes deux profils. Et donc, je suis venu à Lyon faire un M2 droit du cinéma pour la première année. Et au bout du M2, je me suis dit, il y a peut-être des réflexions à mener parce que j'ai un double parcours. J'ai aussi une envie de prospérer dans le domaine du cinéma. Et donc, étant donné que le marché africain a beaucoup de problèmes, notamment sur le plan juridique, il y a un problème de structuration, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas intéressant de mener une réflexion sur cette structuration? Et c'est de là qu'est partie l'idée de faire la thèse. Et comme mon directeur de thèse était assez satisfait de mon travail au Master 2, il a trouvé que c'était une bonne idée de poursuivre. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé à faire une thèse de droit du cinéma en France. Voilà.
Et alors, pourquoi cet intérêt familial pour le droit? Pourquoi c'est si intéressant le droit? Pourquoi?
Disons que pour la famille, ce n'était pas forcément le droit, mais c'était quelque chose de plus sûr. Parce que quelqu'un qui veut faire du cinéma en Afrique, je veux dire, en regardant tout ce qui se passe autour, les parents n'étaient pas du tout convaincus que ce soit le meilleur choix. Mais comme j'y tenais, ils se disent, bon, écoute, il faut quand même avoir quelque chose de plus sûr à côté, le droit qui pouvait donner une ouverture à une profession beaucoup plus stable. Comme, voilà, c'était un peu leur vision, en fait.
Mais ça, je pense que les parents ici en France qui nous entendent, ils se disent la même chose aussi s'ils ont un enfant qui veut être.
Du coup, c'est donc pas qu'une réflexion en Afrique, mais d'accord.
Et alors, comment on arrive à conjuguer les deux? Donc là, droit du cinéma, mais dans le côté plus cinéma, dans le fait de filmer, est-ce que ça a un impact de s'intéresser au droit ou pas?
Moi, je m'intéresse au droit justement dans l'optique de structurer un marché dans lequel je pourrais prospérer en tant que professionnel du cinéma. Tout ce qui est conseil, justement, c'est pour ça que ma thèse, elle est beaucoup plus pratique que théorique, au fait. Donc, elle se base sur des faits concrets et elle propose des solutions de structuration. Mais dans ma façon de filmer, disons que pour le moment, les sujets que je traite n'ont vraiment pas grand-chose à voir avec le droit.
Est-ce que vous voulez expliquer pour nos auditeurs ce que vous avez évoqué, des problèmes, des difficultés sur le marché du cinéma africain? Est-ce que vous voulez en dire plus?
Alors, le problème du cinéma africain qui est connu de tous, c'est un problème de financement. Mais sauf que le problème de financement, il n'est que la partie visible de l'iceberg. Et ses sources se trouvent où? Ça se trouve dans la structuration, en fait. En ce moment, on peut dire que il y a un marché du cinéma et de l'audiovisuel en général en Afrique, mais c'est pas structuré de telle sorte que ce marché puisse financer la production indépendante de façon générale sur place. Quand on regarde un peu en France, je veux dire, c'est le marché qui finance un peu les œuvres qui reviennent sur le marché. Alors que chez nous, il n'y a aucune structuration sur ce plan. Donc, les œuvres viennent de partout ailleurs et ça envahit un peu le marché africain. Je parle notamment, par exemple, des telenovelas qui font la pluie et le beau temps actuellement, mais qui sont d'origine soit mexicaine ou brésilienne ou en tout cas pourquoi pas indienne. Et tous ces contenus arrivent, c'est diffusé sur par exemple nos chaînes de télé, mais il n'y a aucun retour qui permette de financer des contenus locaux. Donc tout ça a pour base la structuration. Donc s'il y a une belle structuration, ça permet au marché de s'autofinancer et de prospérer.
Pourtant, il y a une vraie richesse dans le cinéma africain.
Exactement, exactement. Il y a une richesse, il y a une économie qui peut se constituer de plus en plus, à la différence d'autres pays. Je vais dire aujourd'hui, si tu mets un film africain tourné par exemple dans un pays comme le Burkina et diffusé en salle au Burkina face à un blockbuster américain, c'est évident que le film local, les salles seront toujours comme, mais pour le blockbuster, il n'y aura personne. Parce que les gens s'intéressent à des contenus qui sont plus proches d'eux, qui parlent de leur vie. Mais il faut justement qu'il y ait un mécanisme qui permette à ces œuvres d'exister.
Donc ça veut dire qu'on a du mal à vivre du cinéma en Afrique.
Ça, c'est une évidence.
Est-ce qu'il y a aussi des grands festivals quand même de cinéma?
Oui, je prends l'exemple du Burkina qui a le FESPACO qui est quand même qui a fêté en 2019 son cinquantenaire, donc juste une dizaine d'années après les indépendances au fait que c'est né et ça existe jusqu'à aujourd'hui. C'est en Afrique au sud du Sahara, c'est le plus grand festival de cinéma. À côté de ça, il y a d'autres petits festivals qui existent qui prospèrent au fait.
Alors, en fait, dans une carrière de cinéaste en Afrique, comment c'est perçu d'être au FESPACO? Est-ce que c'est vraiment une reconnaissance? Est-ce que ça assure après de pouvoir avoir des budgets pour faire d'autres films?
Avoir des budgets, je suis pas très sûr, mais pour tous les cinéastes, en tout cas d'Afrique, le rendez-vous du FESPACO est incontournable. On arrive tout le temps, il y a des problèmes d'organisation, peut-être souvent, peut-être pas. Il y a beaucoup qui se plaignent d'une telle chose là, mais l'édition qui suit, la personne est la première à être sur place parce que c'est un carrefour incontournable du cinéma africain aujourd'hui.
Est-ce que vous voulez nous expliquer comment est construit le FESPACO? Ça dure combien de temps? Qu'est-ce qu'on peut voir comme film? Est-ce qu'il y a des prix?
Oui, au fait, le FESPACO, c'est chaque 2 ans. Et donc, l'édition prochaine, ça va être en 2021. Et il y a une sélection, c'est justement pour ça que le FESPACO est une force, au fait. C'est la vitrine du cinéma africain. C'est pas le genre de festival qui mise sur le fait qu'ils veulent avoir la première mondiale du film ou pas. Le film peut avoir existé partout, mais le FESPACO, à partir du moment où le film est assez représentatif des valeurs culturelles de son pays, donc de l'Afrique, le FESPACO le programme. Et c'est généralement le lieu aussi où on peut voir des films qui n'ont pas forcément fait de carrière à l'international, parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais on peut le voir au FESPACO et c'est ça l'intérêt du FESPACO en fait, c'est de voir des films qui sont faits par des Africains sur l'Afrique ou peut-être sur le monde ou peut-être aussi sur la diaspora parce qu'il y a des catégories et donc il y a la diaspora a des est assez représentée pour le FESPACO. Et donc, il y a différentes catégories allant du long métrage à la série. Et le prix le plus prestigieux, c'est l'Étalon d'or qui récompense le long métrage.
Voilà, donc long métrage de fiction, des documentaires, qu'est-ce qu'on trouve ?
Oui, on trouve tout. On trouve des longs métrages, des documentaires, de fiction et des séries et même des films d'école. Il y a différentes catégories au fait. Et chaque catégorie a un prix.
Et alors une question un peu sournoise, Boubacar Sangaré, vous êtes doctorant à Paris. Vous seriez considéré comme cinéaste de la diaspora ou comme cinéaste burkinabé ou FESPACO ?
Alors, je ne sais pas si aujourd'hui je postule, je pense pour moi, je suis un cinéaste burkinabé, je n'ai pas de nationalité française, je suis en France parce que je mène des études, peut-être que je vais être entre les deux, je ne sais pas encore, mais pour moi je me vois plutôt comme cinéaste qui a une nationalité burkinabé. Après, je ne sais pas si un cinéaste peut être vu comme un cinéaste burkinabé, un cinéaste malien ou un cinéaste, d'autant plus que d'ailleurs, Burkina-Mali, j'ai la double nationalité, que je me pense être au milieu et que je pense faire des films qui parlent de réalités qui peuvent transcender les deux pays. Donc, je pense qu'on gagnerait. Moi, j'aimerais qu'on me voit simplement comme un cinéaste et c'est tout. Après, si je dois postuler et qu'il y a des critères de nationalité à mettre en œuvre, je mettrai en avant la nationalité que j'ai.
Mais vous êtes aussi parisien.
Oui, je suis aussi parisien. Je vis à Paris, donc voilà. Même si ma thèse, elle est localisée à Lyon, je vis à Paris, au fait. Et justement, je suis arrivé à Paris parce que je travaillais d'abord au CNC et ensuite à TV5 et voilà, à côté de ma thèse. Donc pour moi, je veux dire, j'ai une vision plutôt globale qui est que je reste une personne simple, c'est tout. Là où je suis, j'essaie de me mettre là, de rester la personne que j'ai été jusque-là et de véhiculer mes points de vue, peu importe le lieu où je suis. Voilà.
Un mot peut-être justement sur cette thèse, parce qu'on l'a évoqué plusieurs fois, mais est-ce que vous voulez nous préciser quel est votre sujet exact de thèse ?
Alors, mon sujet, c'est cinéma audiovisuel et principes de territorialité, la construction d'un marché unique francophone en Afrique. Alors, le principe des territorialités qui est un principe assez connu, qui a fait beaucoup, beaucoup l'objet de débats en Europe ici les dernières années, parce qu'il y avait la révision de plusieurs directives au niveau de l'Europe et le principe des territorialités qui était vu comme la garantie de la continuité d'existence des productions indépendantes qui a un peu la territorialité des droits, donc qui voulait pas une ouverture d'une certaine manière pour effacer cette territorialité. Et pour moi, je vais sur cette base qui est que les droits sont négociés pays par pays, état par état pour l'exploitation des films et c'est ça qui permet de financer les œuvres. Mais justement, ici en Europe, le problème de l'ouverture, c'est que les gens disaient qu'on ne pouvait pas dépasser le principe des territorialités parce qu'à côté, la consommation des produits culturels était plutôt liée à la culture de chaque pays et c'est pour ça que la territorialité a un sens. Moi, j'ai dit qu'en Afrique, par exemple, francophone, on peut aller au-delà de cela. Par exemple, dans l'UOMOA, sur 8 États, on en a 7 qui sont francophones. Donc, il est possible de construire un marché francophone unique sur cette base. Et dans les 7, ils ont toujours eu une histoire commune depuis le 15e siècle, qui est le temps des empires, qui ont pendant longtemps été sous les mêmes empires ou des empires qui sont proches. Donc, ce qui veut dire qu'on a une base culturelle commune sur laquelle on peut construire un marché unique qui n'est pas simplement un marché numérique comme c'est le cas en Europe, mais un marché qui peut aller au-delà du numérique même dans l'exploitation. Et ça nous arrangerait parce qu'en ce moment où c'est du cloisonnement des marchés nationaux et que quand on voit nos pays, ils n'ont pas forcément la capacité, le potentiel de compétir à l'international. Par contre, s'ils se mettent ensemble dans ce marché, ils peuvent prospérer à l'interne comme à l'international.
Est-ce que vous sentez qu'il y aura des levées de boucliers sur cette idée de marché commun du cinéma africain ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ne seront pas contents ?
qui sont pas contents, je pense pas, parce que le marché aussi, moi je le conçois de telle sorte qu'il puisse être bénéfique premièrement pour tous les acteurs au fait. Donc je sais pas s'il y aura des gens qui sont pas contents, parce que toujours c'est pour, dans les pays africains, c'est la question qu'on se pose toujours, c'est ça, il y a cette possibilité, mais pourquoi on ne fait pas? C'est toujours ça au fait le problème, pourquoi on fait pas? Parce que je sais pas, peut-être qu'il y a pas des initiatives, et moi c'est justement pour ça que je veux inscrire ma thèse dans un volet pratique qui consiste à aller même vers les institutions qui peuvent porter ce marché, parce que l'UOMOA, déjà, c'est une union économique et monétaire, ils partagent presque la même monnaie, donc il y a cette force, et d'autant plus qu'il y a un débat autour de cette monnaie qui a tendance à créer une monnaie propre à eux, locale, et donc c'est aller dans ce sens, c'est aller et ouvrir ce marché pour que voilà, il soit plus fort et plus compétitif.
Ça, l'idée de produit culturel, c'est une notion qui existe aussi bien en Afrique qu'en France.
Oui.
On a l'idée d'un produit.
Alors, quand on dit produit culturel, après ça devient, c'est assez général et global, mais après, quand on rentre dans un cadre beaucoup plus restreint, il y a les œuvres, mais aussi, il y a aussi d'autres produits, c'est pas forcément que le cinéma ou l'audiovisuel, mais il y a tout à côté, il y a le théâtre, il y a d'autres arts comme la sculpture, chez nous, il y a ce qu'on appelle aussi les œuvres du folklore. Il y a vraiment beaucoup de contenu qui, au sein de cette notion, en fait.
Alors, si je pose cette question, Boubacar Sangaré, c'est parce que nous avons reçu récemment Hélène Morel-Indard, donc, qui est professeure à l'université de Tours, et on parlait du plagiat.
Oui.
Et on disait en fait qu'il y a un vrai problème, disons, en France, parce que les gens clament le droit d'auteur et la propriété intellectuelle, et que finalement ça donnait à voir une certaine perception de soi et du monde, de dire j'existe moi en tant qu'individu, c'est mon œuvre à moi. Et on s'interrogeait sur le fait peut-être que dans le monde, tout le monde ne se perçoit pas de la même façon, tout le monde ne clame pas son droit d'auteur individuel et personnel. Et donc je ne sais pas, est-ce que c'est pareil pour vous au Burkina, est-ce qu'il y a ce même attachement au fait d'être un auteur individuel qui existe pour soi?
Oui, au Burkina, oui, le Burkina étant un peu dans un système francophone de la perception des choses, donc le Burkina est dans la notion du droit d'auteur francophone au fait, qui s'oppose un peu à la perception anglo-saxonne du copyright. Et donc, au Burkina aussi, la promotion qu'on essaie de faire, c'est ce droit d'auteur personnel au fait, justement, parce que il y a cette relation de la personne à son œuvre, et c'est ce qui est un peu défendu au Burkina aussi. Encore que alors, le niveau n'est pas le même, parce qu'au Burkina et dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est justement ça. On n'arrive toujours pas à protéger les œuvres au niveau qu'on aurait souhaité, au fait, parce qu'à côté, il y a, voilà, y a beaucoup de contrefaçons, de piraterie, et voilà. On n'arrive pas toujours à protéger comme il le faut, même si dans les notions, de façon générale, on est dans le même système que la France.
Voilà, donc ça répond à cette question qu'on se demandait, est-ce que c'est propre à l'ère francophone? Et donc oui.
Pas du tout. Bon, francophone au plus large, pas français, mais francophone. Oui.
D'accord, voilà. Bon, ben merci, nous avons une réponse à notre question. Boubacar Sangaré, je vous propose de faire une première pause musicale. Et on a de la chance parce que vous avez choisi des musiques pour cette playlist. Alors, quel est votre premier choix? Pourquoi vous nous proposez d'écouter ça?
Mon premier choix, c'est Sugaman de Sixto Rodriguez. Alors, j'aime beaucoup ce monsieur que j'ai connu il n'y a pas très très longtemps, mais je l'ai connu grâce à un film qui est Searching for Sugaman de Malik Bendjelloul, qui avait eu, je pense, l'Oscar en 2013, et qui, l'auteur malheureusement est décédé. par la suite. Et ce qui m'intéressait dans cette œuvre, c'était un peu la leçon de vie que ça donne. Un artiste musicien qui vivait aux États-Unis, qui a essayé d'enregistrer des choses que moi je trouve que c'est de la vraie bonne musique, mais qui n'a pas forcément été reconnu. On y trouve beaucoup de justifications. D'autres pensent que parce qu'il avait des origines un peu mexicaines aux États-Unis, donc c'était assez difficile à un certain moment de percer. Alors qu'il est méconnu aux États-Unis et qu'il a fini comme, il n'arrivait plus à vivre de la musique, donc il a fait beaucoup de petits boulots, il travaillait dans le bâtiment et autres. Et il était un très grand succès en Afrique du Sud dans les moments de lutte contre l'apartheid. Et donc, il y avait une légende qui tournait autour de lui, d'autres disaient que c'était un artiste qui s'était flingué sur scène. La seconde version était que à la fin d'un concert, il s'était aspergé d'essence et il s'était immolé devant son public. Donc il y avait toute cette légende qui tournait autour de lui en Afrique du Sud. On pouvait acheter ses disques en Afrique du Sud, alors qu'aux États-Unis, on parlait même plus presque de lui. Et ce journaliste qui essaie de retrouver ce monsieur, pas retrouver ce monsieur, mais de découvrir quelle était la vraie légende de sa mort. Et il se rend compte au fait que le monsieur, il n'est pas du tout mort, il vit peinard dans son coin. Et il le ramène aux États-Unis en Afrique du Sud faire un concert. Et c'est cette histoire incroyable de vie que j'adore sur Sixto Rodriguez de toute sa vie et qui a un peu une position d'artiste au fait. Il faut être juste, selon moi, être convaincu de ce qu'on fait. Le succès, on s'en fout presque.
Alors, nous écoutons Sixto Rodriguez, Sugarman, dans La Méridienne sur Radio Campus Tour.
Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. You hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers cold, sweet and chained. Sugar man, you're the answer. That is my question.
Sugar man. Sixto Rodriguez sur Radio Campus Tour, vous écoutez toujours La Méridienne et mon invité, c'est toujours Boubacar Sangari. Alors, je propose à présent que nous partions un peu du côté de Beyrouth, au Liban, et nous allons écouter un montage sonore réalisé par Daniel, notre envoyé spécial à Beyrouth. Et Daniel indique ceci avec cet enregistrement qu'elle nous a fait parvenir. C'est un montage de son, voilà, de répit et de rencontres entre amis, d'une manifestation à l'autre. Le montage est joyeux, car nous rions beaucoup, tant il nous faut de l'énergie pour faire tomber le pouvoir en place. Je vous propose donc d'écouter cette création sonore que nous a envoyée Daniel depuis Beyrouth, et on se retrouve tout de suite après dans les studios de Radio Campus, dans la Méridienne, avec mon invité Boubacar Sangari. A tout de suite.
Me up to her place.
But it's Sicily.
But I won't be down anymore.
But it's Sicily.
But it's Sicily.
Beyrouth, automne 2019. Depuis le 17, nous sommes révoltés. Nous sommes dans la rue. Nous crions. Nous dansons. Nous chantons. Nous parlons. Nous partageons. C'est notre révolution.
بس اول شفتي الشوبي بس ستة يعني
Moi, j'ai pas osé la faire descendre la voiture.
On est en mode barre degré.
Sans être
ah, bleu en plus du public, désolé.
Là, mal.
Ma femme est avec les filles.
Là,
par contre, allez, allez, à moi.
T'as filmé un peu aujourd'hui?
Juste là, là, ils font une reconstitution de la crucifixion du Christ et ils crucifient la guerre civile et le communautarisme.
C'est pas vraiment une crucifixion, c'est une pendaison.
Ah oui, pardon, mais c'est pas du tout une crucifixion.
Et qui fait ça?
Je sais pas.
Ils pendent la guerre civile et...
La
sectarianisme.
C'est le seul truc que j'ai filmé pour l'instant. Oh, tu fais quoi?
Christ
sonore. Ouais, c'est le moment, quoi.
Bon, ça reste toujours relativement basique et assez normatif, en fait. Hein.
Je t'enregistre.
Non, mais en général, oui, c'est assez passe-partout, petit polo, le jean assez omniprésent, la basket adaptée au terrain urbain, évidemment.
Super, tes dessins.
Ça va?
Oui,
merci.
Toi?
Cadeau. Mohamed
Zer.
Cadeau. Hol, quel
nom. T'en as marre de les tenir?
Là-bas, avec Fir.
Merci.
Merci. Allô?
Finalement, hein, tout ça reste assez gris, noir. blanc, bleu clair. Je me serve une rayure. Peu, très très peu d'imprimés par exemple. Alors les chemises sont les rares endroits où on s'autorise un motif. Donc là un carreau par exemple. Mais même... ouais voilà du carreau aussi. Pas de fleurs, hein. Très très peu de fleurs. On n'est pas dans une révolution des années 60. Clairement. Beaucoup plus structuré finalement. Pas mal de rouge par touche ou de manière un peu plus assumée, mais c'est la couleur là, qui ressort un peu du lot.
Actually, the more we do of these, I'm really impressed. Like honestly, j'ai jamais vu ça autant avec des débats politiques de toutes les classes sociales. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ce que tu vois à la télé, normalement, c'est une classe sociale. C'est pas toutes les classes sociales. Mais là, maintenant, c'est un truc de ouf. The awareness that's bringing to people is amazing.
Bravo, bravo les filles.
Bravo, et voilà, Daniel nous faisait entendre les rues de Beyrouth sur Radio Campus Tour. Donc je relis à nouveau la présentation que Daniel nous envoyait avec ce montage. C'est un montage de sons de répit et de rencontres entre amis, d'une manif à l'autre. Le montage est joyeux, car nous rions beaucoup, tant il nous faut de l'énergie pour faire tomber le pouvoir en place. Mon invité, Boubacar Sangaré. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire après avoir écouté ce montage du Liban ?
Bah, ce qui me vient immédiatement en tête, c'est de leur dire de ne rien lâcher parce que en 2014, nous l'avons aussi fait et avec beaucoup de ténacité, on a réussi à faire tomber le président. Donc, c'est possible, c'est faisable et voilà, chez nous, justement, mon film « Une révolution africaine, les 10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré » est un témoin vivant de cette lutte.
Alors, avant de faire écouter un extrait de votre film à nos auditeurs, peut-être vous voulez nous dire un mot comment vous avez filmé ce documentaire, Une révolution africaine, les 10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré. C'était en quelle année? Vous avez mis combien de temps à le filmer? Comment vous avez fait?
Alors, l'histoire de ce film, c'est que au départ, on n'avait pas forcément envie de faire un film. Moi, je travaillais pour une web télé qui est www.droitslibre.tv, qui est une web télé qui intervient un peu sur le domaine des droits humains, de la liberté d'expression. Et quand je travaillais là, donc, on faisait des sujets justement sur plein de choses au Burkina et cette lutte des Burkinabés d'abord contre le Sénat, puis contre la modification de la tentative de modification par le président qui voulait se représenter après 27 années de pouvoir. Donc il y a eu une lutte et nous on a un peu documenté cette lutte et on faisait des éléments qu'on mettait en ligne sur notre web TV. Et au fait, personne ne s'attendait à sa chute au fait. Et évidemment, c'est arrivé. Et là, quand c'est arrivé, on s'est dit, on était quand même les seuls qui avaient documenté la lutte pendant plusieurs années sur différents fronts. Et on s'est dit, il y a lieu quand même de faire un documentaire, d'autant plus qu'on était tous des professionnels du cinéma dans cette web télé. On s'est dit, il fallait faire un documentaire témoin de cette lutte du peuple burkinabé. Et c'est de là qu'est partie l'idée de faire le documentaire. Et donc, on a recommencé à tourner et à faire certaines interviews complémentaires pour aboutir à une sortie du film en juillet 2015. Donc, mis à part les archives qu'on a utilisées, le tournage lui-même, il s'est étendu peut-être, des éléments complémentaires, il s'est étendu sur quelque chose de 6 mois, et, y compris la post-production qu'on faisait en même temps. Mais on a utilisé des archives qu'on avait tournées depuis 3-4 ans avant la révolution.
Alors, qui on peut voir dans ce film ?
Alors, dans ce film, on peut voir beaucoup de gens, c'est-à-dire le ballet citoyen qui était un peu en tête, qui a un peu mené cette révolution, qui était un mouvement de la société civile burkinabé et qui a un peu été l'initiative de toutes les luttes et qui ont conduit à la chute de Blaise Compaoré. À côté de ça, il y a d'autres organisations de la société civile, mais qui sont des acteurs clés de cette lutte, au fait. Après, on avait des leaders du parti au pouvoir à l'époque, qui était le CDP, justement parce qu'on voulait, c'était un documentaire dans lequel on voulait que ce soit témoins vivants, donc des gens même du parti au pouvoir, qu'est-ce qui les motivait en ce moment dans cette tentative un peu aveugle et au mépris de tout ce qui se passait autour. Donc, on a vraiment tous les différents acteurs autour de ce film, des acteurs de la révolution qui sont dans le film.
Est-ce que vous voulez les nommer, ces gens?
Oui, je peux les nommer. Donc, le ballet citoyen, on avait notamment les deux leaders qui sont Smokey et Sam Scaledia, qui sont l'un, Smokey qui est un animateur radio, mais aussi un reggaeman, et Smokey qui est un artiste musicien, qui est un rappeur, et Sam Scaledia qui est animateur radio et aussi artiste mais reggaeman. À côté de ça, il y a des gens comme Léonce Conné, qui était un des leaders du parti au pouvoir, qui était député à l'époque, mais un des membres influents du CDP. Il y a Zéphirin Diabré, qui était le chef de file de l'opposition à l'époque. Et il y a d'autres personnes. Il y a des manifestants individuels comme une activiste qu'on appelle Sandrine Nana, qui n'était pas du tout politique, mais activiste et qui fait partie du film. Donc, il y a un journaliste qui est celui qui a enregistré le dernier discours de Blaise Compaoré avant qu'il ne démissionne. Donc, il y a vraiment des gens comme ça. Il y a pas mal de gens qui témoignent des 10 derniers jours de ce régime, au fait.
Et ce film, comment il a été reçu au Burkina? Est-ce que vous avez pu le montrer ailleurs?
Alors, ce film, autant c'est un film historique sur le mouvement historique, c'est l'un des documentaires burkinabés, à ce que je sache, qui a fait plus de 10 000 entrées en salle pour un documentaire. D'abord au Burkina, il y a pas beaucoup de salles. On a exploité le film sur 2 salles et une dernière salle beaucoup plus tard. Donc 3 au total. Mais pour ça, on a fait plus de 10 000 entrées. Alors que le film a été produit par la Web Télé, qui intervient dans le droit humain. C'est un film qui a parcouru toutes les régions du Burkina Faso en projection gratuite avant sa sortie en salle. Et quand c'est sorti en salle, on a fait plus de 10 000 entrées. Et puis à l'international, il a beaucoup circulé aussi dans pas mal de festivals, peut-être consacré à l'Afrique, mais voilà. Et même quand on a été à Sciences Po Paris, le projeter et mener une discussion autour des révoltes et des mouvements sociaux en Afrique.
Vous voulez peut-être nous dire où on a pu le voir en France?
En France, on a pu le voir, on l'a vu à Angers, au Festival du cinéma africain à Angers. On l'a vu à, comment j'appelle ça, quel autre festival? Ça date de 2015, donc un peu, les dates, j'ai un peu du mal à les retrouver dans les festivals, mais il y a beaucoup de festivals qui l'ont diffusé.
Voilà, donc sait-on jamais si quelqu'un nous écoute et a envie de le diffuser à Tours. Que les gens ne s'en privent pas.
Exactement, c'est un plaisir. En tout cas, ça donne à voir comment le peuple burkinabé a lutté pour pouvoir faire partie un président. Donc, c'est toujours des mouvements sociaux qu'on peut, on peut regarder et avoir sa propre lecture. Et pourquoi pas inciter davantage les jeunes à comprendre qu'il y a une certaine prise de conscience qu'il faut, peu importe là où on est, quoi.
Et là, on a la chance de pouvoir diffuser un extrait de ce film. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Quel extrait vous avez choisi, Boubacar Sangaré?
J'ai juste choisi un extrait comme ça, un peu sur le volet, mais où on a un peu... un témoignage d'un jeune qui était un peu l'esprit qui animait, comment on appelle ça, les jeunes à cette période d'insurrection. Et à côté de ça aussi, il y a le témoignage de Maître Hervé Cam, qui est un avocat, mais aussi porte-parole du Ballet Citoyen. Après, c'était un peu toute l'ambiance dans une nuit pendant le blocage qui avait été instauré.
Alors, nous écoutons un extrait du film « Une révolution africaine, les 10 jours qui ont fait chuter ». Blaise Compaoré, vous écoutez toujours Radio Campus Tours, c'est La Méridienne.
À partir du moment où on était tous d'accord qu'il fallait des actions de terrain, et certains ont voulu qu'on l'appelle blocus, d'autres ont voulu qu'on l'appelle barrage, d'autres ont voulu, voilà. Donc, on a fait divisé la ville de Ouagadougou en 10 zones. 10 zones de foyers, on va dire, actifs, permanents, du 21 jusqu'au jour du vote. Voilà ce qu'on s'était dit au départ. Tous les jours, il fallait semer la merde dans la ville de Ouagadougou, de nuit comme de jour. C'était le principe de base.
L'idée était que dès ce 21-là, il ne se passe pas une journée, une heure, sans que les Burkinabés ne sentent, n'entendent, ne voient qu'il y a problème.
Vous comprenez ce soir?
Voilà, on va gâter tout ce soir-là.
Moi, j'appelais mes vieux pères. Je dis, bon, les gars sont en train de vouloir nous pousser à d'autres choses. On n'a pas l'intention de faire de la violence. Mais si on prône la non-violence, c'est parce qu'on connaît la violence. Il ne faut pas nous pousser. Voilà. Donc, déjà, la tension était en train de monter.
Voilà, c'était un extrait du film « Une révolution africaine, les 10 jours qui ont fait chuter ». Blaise Compaoré, donc Boubacar Sangaré, vous êtes un des auteurs de ce film.
Oui, je l'ai co-réalisé avec Gideon Vink, qui est un Néerlandais, mais qui vit au Burkina depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, qui connaît très bien la réalité du Burkina et qui est l'un des porteur du projet de la web télé et un peu plus grand d'un festival qui s'appelle Ciné Droit Libre, qui est un festival sur les droits humains et la liberté d'expression. Un festival qui a une histoire assez incroyable parce qu'ils avaient fait un film sur justement l'assassinat d'un journaliste assassinat par le régime le régime déchu de Blaise Compaoré, au fait. Donc, ils ont fait un film et comme ils ne pouvaient pas le diffuser, la censure, ils ont décidé de créer un festival et de diffuser leur film et donc par là diffuser des films qui peut-être ne pouvaient pas être diffusés publiquement. Donc, ils essaient de diffuser ce genre de films et dans les quartiers les plus populaires possibles, au fait.
Qu'est-ce qui a changé depuis la réalisation de ce film au Burkina ?
Alors, la question est assez complexe. Même au Burkina, je pense que les Burkinabés se posent des questions. Il y a d'autres qui regrettent le départ de Blaise, évidemment, ses partisans, et d'autres qui pensent qu'il y a eu une évolution indescriptible parce que au moins un peuple a réussi à mettre fin à un régime qui il y a 5 années auparavant personne ne pouvait croire en cela et il y a eu une sorte de démocratie qui s'est instaurée parce que au moins ce président il est parti, il y a eu des élections libres, un autre l'a pris même si c'est un qui a travaillé avec lui pendant plusieurs années avant de démissionner. C'est pas là le problème. Après sur Alors, le problème, c'est que le Burkina est retombé dans une situation sécuritaire mais, assez déplorable, mais qui s'explique un peu par... comment on appelle ça? Parce que la situation au Mali s'est un peu dégradée et ça s'est étalé sur les pays voisins, le Burkina, le Niger et autres. Donc ça, c'est une conséquence de cette situation. Et ça fait partie de l'après-Blaise Compaoré, parce que c'est après, arrivé après Blaise Compaoré. Donc il y a pas mal d'aspects comme ça. Mais moi, je retiens juste que ce qui s'est passé, c'est que voilà, un peuple s'est levé à assumer son destin. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui veut dire que le peuple a toujours ce pouvoir de s'assumer et de déterminer quel genre de dirigeant il veut.
Est-ce qu'il y a un moment où Droit Libre TV a pu être inquiété, en fait, pour ses activités de production cinématographique?
Disons qu'après ce film, et donc après l'insurrection, il y a eu une transition au Burkina Faso. La transition devait durer une année, et au bout de la transition, il devait avoir des élections. Sauf que en septembre 2015, donc quelques mois avant la fin de la transition, il y a eu un coup d'État. Un coup d'État qui a été perpétré par l'ancien, chef d'État-major particulier de la présidence, qui avait un régiment qui s'appelle le RSP, qui était un peu la garde prétorienne du président déchu. Donc, ils ont fait un coup d'État et ça a duré quelques jours aussi. Et le peuple est ressorti pour empêcher ce coup d'État. Et finalement, le mec a été obligé d'abdiquer. Et, il a été jugé et condamné récemment d'ailleurs. Et donc, nous, on est ressorti pour faire des images pendant le coup d'État. Et disons que là, ça a été beaucoup plus violent que l'insurrection. Pendant l'insurrection, on n'a pas du tout été inquiétés. Les forces de l'ordre s'occupaient presque pas de nous. Et on faufilait où on voulait pour filmer avec tous les collègues de la web télé. Mais là, je suis ressorti avec mon co-réalisateur. On est sorti faire des images et là, ça s'est mal tourné. Ça s'est mal passé pour nous. Bizarrement, moi, physiquement, j'ai pas été agressé. Ils m'ont menacé. Ils ont récupéré mon matériel qu'on n'a jamais retrouvé. Par contre, lui, en plus d'avoir perdu tout son matériel, il a été vraiment agressé. Et les jours qui ont suivi, on dormait au bureau, toutes les portes fermées et on avait vraiment peur, quoi. Donc, on a perdu du matériel. Lui, il a été agressé. D'autres aussi, notamment le coursier et un autre qui était conducteur avec nous, a subi les mêmes agressions. Mais c'était vraiment violent, quoi.
Que ce serait risqué pour vous de retourner au Burkina?
Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai aucun risque. Je suis pas parti parce que c'est vrai que je suis parti juste un peu après ça, mais je suis pas parti parce qu'il y avait ce problème. Donc moi j'y retourne fréquemment justement parce que j'ai d'autres projets que je porte là et que je développe, donc je tourne là. Ouais.
D'ailleurs, on en parlera après une deuxième pause musicale, mais il se trouve que si vous passez par Tours, c'est aussi parce que c'est lié à un projet de film. On en parlera après une pause musicale et vous avez choisi autre chose à nous faire écouter. Alors, c'est quoi?
Alors, j'ai choisi Djeliko de Baba Sissoko. Baba Sissoko qui est un griot mandingue qui vit plutôt en Italie, entre l'Italie et le Mali. Et, je l'ai choisi parce que il a un style musical que j'aime, c'est assez fort, mais parce que aussi Baba Sissoko porte le nom de son grand-père qui s'appelle Djeli Baba Sissoko, qui était un conteur. Et mes parents étant d'origine malienne et ayant vécu au Burkina pendant longtemps, pendant mon enfance, j'écoutais beaucoup les contes de son grand-père. Et donc ça a un peu bercé mon enfance et donc j'ai ce lien. Et quand j'ai trouvé Baba Sissoko, je suis en train de préparer un autre projet qui n'est pas forcément celui pour lequel je suis venu à Tours, mais je fais un projet sur les griots mandingues et justement Baba sera un des personnages de ce film.
Alors nous écoutons Baba Sissoko sur Radio Campus Tours.
Thank you.
Vous écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tour. Nous écoutions Baba Sissoko. C'était un choix de notre invité Boubacar Sangaré. Alors, nous disions avant cette pause musicale que si vous êtes de passage à Tours, c'est parce que vous travaillez sur un projet de film. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Exactement. Je suis passé parce que j'étais en commission et je développe un documentaire sur ce qu'on appelle les enfants orpailleurs au Burkina. C'est-à-dire qu'au Burkina, à côté de l'exploitation industrielle de l'or, il y a aussi des sites traditionnels et il y en a beaucoup au fait. Et dans ces sites, on trouve tout genre de personnes, y compris des enfants. Et des enfants qui sont là justement pour chercher l'or ou pour gagner leur vie dans autre chose. Et ça avait cet aspect personnel parce que moi-même, à 13 ans, j'y avais été. Et donc, sur la base de cette expérience personnelle, j'essaie de faire un film sur l'évolution des enfants, l'évolution psychologique, physique des enfants sur ces lieux et en lien justement avec mon parcours. Et évidemment, comment est-ce que pour une sorte de positivité liée à mon parcours, comment est-ce que moi j'ai réussi à sortir de là et comment est-ce que on peut ouvrir sur cette positivité pour ces enfants aussi, parce que c'est pas forcément tout ce qui arrive à partir de là. Généralement il y en a qui grandissent là, qui fondent leur famille là et qui finissent par y rester parce que au quotidien c'est des accidents, c'est des maladies, c'est tout ce qu'il peut y avoir comme danger, quoi.
Comment vous allez filmer ces enfants orpailleurs? Sans trop en dire.
Ouais, parfois ça, ouais. Disons que j'aimerais être là avec eux parce que, au fait, sur le site, il y a deux aspects. Au fait, il y a là où on creuse dans les forces et il y a là où, justement, c'est la vie qui se mène. Les deux sites ne sont pas forcément loin. Et donc, moi, je suis un peu le parcours de la pierre que le premier gamin qui est dans les forces obtient et qui va la transformer dans la cité. Et donc, c'est dans ce parcours que je filme un peu leur évolution, en fait.
Voilà, donc parcours étonnant, d'enfant orpailleur à doctorant et documentariste.
Si on peut le dire ainsi.
Et, ouais. Et alors, ce film, il est en cours de travail ?
Exactement. Voilà. Là, on a fini l'écriture, on essaie de passer au développement. Bon, pas fini, on est en écriture, mais on essaie de passer au développement pour que mes producteurs puissent aller de l'avant et puis aller vers la production.
Et donc, cette commission, pour le dire, c'était une commission de Cyclique, l'agence Cyclique, que nous recevons d'ailleurs parfois par ailleurs à Radio Campus pour d'autres projets. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur votre travail, Boubacar Sangaré ? Là, on a parlé de documentaire, mais il me semble que la fiction vous intéresse aussi.
Exactement. Pour le moment, j'ai beaucoup plus travaillé dans du documentaire parce que, justement, comme j'ai fait une partie de mon parcours au Burkina, dans un contexte où il n'y a pas forcément de financement, je veux dire, pour du documentaire, autant il est possible, en certains moments, de mettre son énergie en collaboration avec d'autres personnes pour aboutir à quelque chose comme une évolution africaine où on avait le strict minimum pour le faire, ou encore un court-métrage que j'avais fait après l'école qui s'appelait « Dieu veille sur la vigile » où on n'a pas besoin de grand-chose. Pour la fiction, c'est beaucoup plus compliqué, même si j'écris des projets pour le moment et que justement j'essaie de profiter de ma thèse étant en France, de travailler avec d'autres producteurs que je rencontre dans mon parcours. Donc l'idée, c'est d'arriver à les soumettre un peu leurs projets de fiction aussi. Donc moi, je me définis comme cinéaste et le cinéma, c'est y compris le documentaire et la fiction. Donc c'est pas que j'ai une spécialisation pour le documentaire ou pour la fiction. Je fais des choses qui me parlent. Dès que ça me parle, j'essaie de réfléchir dessus et j'aboutis à un projet et éventuellement à le faire.
L'émission touche déjà à sa fin. Alors peut-être, Boubacar Sangaré, qu'il y a un endroit où on peut voir votre travail. Est-ce qu'il y a sur les internets quelque part où on peut voir votre travail ?
Pour le moment, j'ai pas développé un site personnel, mais ça ne saurait tarder parce que en cet moment, je pense que il est intéressant de mettre en avant ce qu'on fait et que les gens puissent voir ce qu'on fait. Après, pour le moment, je suis rien absu, mais propres réseaux sociaux, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, ou via directement des gens que je rencontre, je discute un peu et souvent je leur montre ce que j'ai fait, je peux leur envoyer des liens sur ce que je fais.
Alors, on ajoutera le lien de votre futur site sur le podcast de cette émission quand vous l'aurez.
Avec plaisir.
Vous avez choisi une dernière musique, donc on va se quitter en musique et qu'est-ce qu'on va écouter ?
On va écouter Diomaya de Victor Démé. Victor Démé qui est un artiste burkinabé qui a aussi une histoire particulière, qui a passé beaucoup de temps de sa vie. Son père était couturier, donc il a lui-même été couturier et sa mère chantait un peu, donc il chantait aussi un peu. Et il était entre les deux. Il a fait justement cet album qu'il avait fait, qui n'avait pas été reconnu très tôt. Donc il était à Bobo, il chantait dans les cabarets, il était couturier. Mon père était couturier aussi. Et la musique, elle a quelque chose du fait que Diomaya, c'est un dula. Et ce qu'il chante, c'est de ne pas se vanter de ce qu'on est, au fait. On peut se moquer ou rire de quelqu'un aujourd'hui et demain, il serait peut-être la solution à son problème. Qui me définit un peu parce que je me souviens encore quand on était enfant, tout ce que mon père nous disait, c'était ça. Il disait toujours... une personne ne doit pas se vanter, une personne ne doit pas se mettre à un niveau. Il faut laisser les gens te mettre au niveau où tu es. Ce n'est pas à toi de le faire. Donc, qui était un peu, qui définit un peu le contexte dans lequel j'ai grandi et puis comment j'ai été éduqué.
Merci Boubacar Sangaré.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Et on se quitte en écoutant Victor Démé sur Radio Campus Tours, c'était La Méridienne.
Anche se ne l'ho mai.